Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 16e épisode.
Cette semaine, nous allons parler du travail des femmes. Vous me direz, les femmes ont toujours travaillé. Oui, sûrement. Mais leur travail était de l'ordre du domestique, de la reproduction, c'est-à-dire non valorisé, non rémunéré. Les sociétés n'auraient jamais pu vivre et se reproduire sans le travail domestique des femmes. Mais ce travail est invisible. Les femmes n'ont pas toujours exercé des métiers reconnus, des professions salariées. Et c'est le salariat, notamment l'industrialisation, qui à partir des 18e et 19e siècles dans les sociétés occidentales a posé la question du travail des femmes. On s'est mis à se demander, est-ce que les femmes peuvent, est-ce qu'elles doivent accéder au salariat, c'est-à-dire recevoir une rémunération individuelle et surtout quitter la maison, le foyer qui était leur ancrage et leur utilité. Longtemps, les femmes ont été des paysannes liées aux travaux des champs. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale en France, c'était encore la condition de près de la moitié des femmes, et on l'oublie trop souvent. Dans le monde, aujourd'hui, les paysannes sont sans doute encore majoritaires, si l'on songe à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine. Or, les paysannes sont les plus silencieuses des femmes. Elles sont enfouies dans la hiérarchie de sociétés souvent patriarcales, d'où elles émergent peu individuellement. Elles sont fondues dans le groupe, dans la famille, dans les travaux et les jours d'une vie rurale qui semble échapper à l'histoire et que décrivent plutôt les ethnologues. Rien d'étonnant d'ailleurs à ce que notre savoir des femmes rurales nous vienne d'eux. Je pense aux travaux de Martine Ségalen, d'Yvonne Verdier en France par exemple, d'Agnès Fine. Les romans de George Sand ont une grande valeur ethnologique. La peinture, lorsqu'elle prend en compte le monde rural, le fait souvent de manière conventionnelle, de Bruegel à Le Nain, Millet, bien sûr. Plus intéressant, Millet, d'ailleurs. Les conflits, lorsqu'ils donnent lieu à des procès, nous livrent des éclats de la voix des femmes habituellement étouffées. Les témoignages directs sont rares. Marguerite Audoux, dont je parle souvent, Jacques Elias dans Le Cheval d'Orgueil, Joël Guillet, La Berthe, etc. Mais enfin, c'est peu. Ces femmes, nos aïeules, qui, il y a 3 ou 4 générations, vivaient au village, ont disparu avec eux. Tout juste dispose-t-on de vieilles photos où elles posent endimanchées avec leur époux ou dans des photos de groupe lors d'un mariage. Beaucoup plus rarement, on dispose de correspondances écrites dans les temps de séparation d'un couple pendant le service militaire ou pendant la guerre. On les a laissées partir, ces femmes, sans recueillir leur mémoire. Mon arrière-grand-mère, Agathe, était une poitevine qui ne savait ni lire ni écrire. Elle filait le chanvre. Je la revois encore. Elle m'a laissé son rouet que j'ai longtemps conservé.
Paysannes
était réglé par celle de la famille et les rythmes des chants, dans une très forte division des rôles, des tâches et des espaces. À l'homme, le labour et les transactions de la foire. À la femme, la maison, le soin de la basse-cour et du potager, dont elle vendait les produits au marché. Selon leur âge et leur place dans la famille, elles travaillaient au champ lors des moissons, des récoltes de toute nature, pommes de terre ou vendanges. Courbées vers la terre ou sous le poids des charges, la vieille paysanne est une femme voûtée. Elle s'occupait du troupeau, vaches qu'elle gardait et trayait, chèvres pour le fromage, dont la fabrication leur revenait. La paysanne est une femme occupée. Soucieuse d'abord de vêtir, elle file dans l'ancien temps, et de nourrir les siens. Les repas jouent un très grand rôle dans cette vie quotidienne. Et si possible d'apporter au ménage un supplément monétaire dès que la campagne s'est ouverte au marché. Alors, elle file pour l'extérieur ou bien elle fond de la dentelle, par exemple dans la région du Puy ou dans la région de Bayeux, que des facteurs viennent souvent chercher jusque dans les villages. Ce monde rural, dont le couple conjugal, le ménage, est le pilier, est très hiérarchisé. D'abord entre les sexes. Le maître, c'est lui. Et puis entre les femmes. La maîtresse règne sur sa maisonnée. Elle veille sur ses filles, soucieuse de leur fréquentation et de leur trousseau. Le trousseau est d'ailleurs un mode de transmission privilégié entre mère et fille. En faisant le trousseau, si la mère parle, c'est à ce moment-là qu'elle parle à sa fille. La maîtresse prend soin du linge et les jours de lessive sont de véritables cérémonies. Les lessives n'ont pas lieu tous les jours, quelquefois une fois par an ou deux fois par an. Elle s'occupe des parents âgés, non sans rechigner contre une cohabitation persistante, mais de plus en plus mal supportée. Elle surveille ses servantes, lesquelles sont souvent en butte aux agaceries des valets ou du maître. Et la maîtresse surveille leur taille, notamment quand elle grossit sous leur sarrau ou leur tablier. Ces servantes, placées par des familles nombreuses qui ne peuvent les employer et les nourrir, appartiennent à la couche la plus pauvre et la plus exposée du monde rural. Cette vie rude, oui, très rude, a tout de même ses rites et ses plaisirs pour les femmes, dont le pouvoir caché est souvent très fort. Il s'exerce par le regard et par la parole, à l'église, où elles sont les plus ferventes. Dévotes à l'église, diable à la maison, dit un proverbe. Au lavoir, les femmes parlent entre elles, et le linge porte à la confidence. Les hommes, d'ailleurs, redoutent les caquets des lavoirs, qui opèrent une sorte de censure morale. À la veillée, les vieilles femmes, l'hiver, racontent des histoires et transmettent des légendes. Mais bientôt, les jeunes migrants, qui arrivent tout frais de la ville, leur dament le pion par leurs récits où bruissent les rumeurs de la capitale. Martin Nadeau, dans les mémoires de Léonard, qui raconte justement l'histoire d'un jeune maçon creusois qui s'en va à la ville pendant la bonne saison, qui revient à l'hiver au village, a raconté cette histoire de la vieille fouineuse qui se tait progressivement parce qu'elle est concurrencée par les récits des jeunes maçons. Yvonne Verdier, dans « Façon de dire, façon de faire », enquête menée il y a une trentaine d'années sur le village de Minot en Bourgogne, a décrit les rôles des femmes très marquées. La couturière, la cuisinière, la femme qui aide. Ces rôles sont marqués par une culture du corps dont les femmes sont en quelque sorte les prêtresses. Et la femme qui aide, par exemple, intervient pour les mariages et pour les morts. Elle est l'ensevelisseuse et par conséquent la gardienne de la mémoire des familles. Il y a 30 ans déjà, au moment où Yvonne Verdi a fait son enquête, cette culture était sur son déclin. Elle nous l'a raconté dans ce beau livre, mais aujourd'hui, cette culture a disparu. Immobile, du moins en apparence, la vie des campagnes change, et celle des femmes aussi, par le marché et les communications, par l'industrialisation, par l'instruction, par l'exode rural, par le rôle des guerres, surtout celle de 1914-1918, qui a vidé les campagnes de ces jeunes hommes et transférer une partie de leurs tâches et de leur pouvoir aux femmes. Pendant cette Première Guerre mondiale, on a vu des femmes qui faisaient les labours, ce qui était presque un sacrilège. C'est l'homme qui laboure. Alors évidemment, ces facteurs cumulés ont modifié l'équilibre des familles, les rapports entre les hommes et les femmes, et ils ont changé la vie des femmes. Par ailleurs, les femmes aussi quittaient les campagnes. Elles ne restaient pas attachées au village, les jeunes surtout. Leurs parents les plaçaient comme servantes de ferme, comme bonnes en ville, mais aussi en usine. Par exemple, dans le sud-est de la France, en Ardèche et dans le Lyonnais, il y avait des fabriques de soie, moulinage, filature, tissage, dont le patronat avait copié le modèle sur Lowell, qui est une ville dortoir américaine près de Boston. C'était des usines internats qui employaient des jeunes filles dès l'âge de 14 ans. Pour rassurer les familles paysannes dont elles étaient issues, on avait confié la surveillance de ces internats aux religieuses. Il y avait même un ordre qui s'était créé à cet effet. La discipline était stricte et la pratique religieuse obligatoire. Les jeunes filles restaient là presque un mois, quelquefois plus, sans retourner dans leur famille à laquelle était versé directement leur salaire. On disait dans la région qu'un paysan qui avait des filles avait de la chance. Grâce à elles, il pouvait payer ses dettes et même acheter des terres. Cette forme d'internat industriel a existé dans de nombreux pays dans le monde, sous une forme encore bien plus rigoureuse en Extrême-Orient, au Japon, en Corée, en Chine. Ils existent d'ailleurs toujours, mais la plupart du temps, ils sont libres, il n'y a plus d'internat. En Chine, par exemple, on voit souvent ces jeunes filles employées dans ces grandes manufactures où elles travaillent encore un nombre d'heures absolument considérable. Quand elles étaient parties, les jeunes paysannes ne revenaient pas toujours. L'appel de la ville et du train, le chemin de fer joue un rôle considérable dans ces campagnes, était très fort. Marguerite Audoux, dans Marie-Claire, a raconté son départ presque improvisé pour Paris. Elle a perdu son emploi de bergère en Sologne. Elle accompagne sa sœur à la gare, et je cite, les employés couraient sur le quai en criant « Les voyageurs pour Paris, traversez !» Dans l'instant même, je vis Paris avec ses hautes maisons toutes semblables à des palais et dont les toits étaient si hauts qu'ils se perdaient dans les nuages. Ainsi imagine-t-elle la capitale qu'elle embellit, bien entendu. Elle se procure un billet, elle monte dans le train, elle sait coudre. Elle entrera dans un atelier de couture qu'elle raconte dans le roman suivant, l'atelier de Marie-Claire. Ces jeunes femmes aspiraient à une vie meilleure et plus libre. Plus instruites, elles rêvaient d'autre chose, y compris d'intimité et d'amour. Au XXe siècle, les paysans ne trouvent plus d'épouses au village et le célibat masculin s'accroît. Pour que les femmes restent à la campagne, il faudra que les fermes devienne plus confortable, que la famille cesse d'être patriarcale. Ça se produira, mais lentement, dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors à ce moment-là, dans la seconde moitié du XXe siècle, celle de la Terre, c'est le titre d'un livre de Rosemary Lagrave qui raconte les mutations de la condition des femmes dans les campagnes françaises de la deuxième moitié du XXe siècle, celles de la Terre sont des femmes modernes qui conduisent leur voiture, manient le chéquier, font les comptes de l'exploitation, montent parfois sur un tracteur. Joël Guillet, dans ses romans, montre dans le Perche des femmes sur des tracteurs et qui font des rôles véritablement masculins. Elles font même du syndicalisme. Et il n'y a pas bien longtemps, c'était une femme qui dirigeait la Confédération nationale des jeunes agriculteurs. Mais cela, dans une agriculture qui, aujourd'hui, représente à peine en France 4% de la population. Autrement dit, les paysannes sont devenues des agricultrices, mais les paysannes d'autrefois ont disparu. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère poitevine, eh bien d'elle, je n'ai plus que le rouet avec lequel, jadis, elle filait le chanvre.
Michel Perrault, réalisation Pierrette Perronneau.